La question de la fin de vie est au cœur des débats parlementaires en France. Après une première lecture à l'Assemblée nationale il y a déjà quelques mois, la proposition de loi relative à la fin de vie est examinée par le Sénat à partir de ce 20 janvier jusqu'au 26 janvier prochain. Ce texte, débattu depuis plusieurs années, vise à réformer de manière significative le cadre légal de l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais pose aussi de véritables questions quant au respect de la vie humaine. Le projet est structuré autour de deux volets distincts. D'une part, une proposition de loi conçue pour renforcer l'accès et la qualité des soins palliatifs afin de garantir à chaque personne un accompagnement digne jusqu'à la mort naturelle. D'autre part, une proposition visant à instaurer un droit à l'aide à mourir qui ouvrirait sous condition la possibilité d'un accompagnement médical vers une mort provoquée. C'est sur ce second point que se situe l'enjeu éthique, entraînant un débat sociétal sur le sens de la dignité humaine. Et nous en parlons aujourd'hui avec mes deux invités, Sabine Barbecombe et Bernard Lefort. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Anne-Rose.
Sabine Barbecombe, vous êtes responsable de la pastorale de la santé dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Vous êtes également à l'initiative de la Fraternité Saint-Luc qui regroupe des soignants qui veulent justement discuter, débattre, échanger sur notamment les enjeux éthiques de leur profession et peut-être même un peu plus largement que ça. Bernard Lefort, vous êtes médecin libéral à la retraite depuis 8 ans. Vous vous êtes formé il y a déjà bien longtemps aux soins palliatifs. C'est une question qui vous intéresse et vous avez d'ailleurs fait partie d'une association, d'un réseau de soins palliatifs. Vous nous expliquerez exactement de quoi il s'agit. Alors, on va commencer cet entretien d'abord en se penchant un peu sur le sens de la dignité humaine, puisque au fond, c'est quand même la question qui est au cœur de ce débat et de ce projet de loi, c'est la dignité humaine. Qu'on soit pour ou contre la loi, eh bien, on se réclame de défendre la dignité humaine. C'est vraiment l'argument qui ressort de part et d'autre du débat. Quand on parle de dignité humaine, pour vous, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on peut définir la dignité humaine?
Bernard Lefort. Alors moi, je vais m'appuyer sur les travaux de Eric Fiat, qui est un philosophe qui enseigne, un professeur de philosophie qui enseigne dans à l'université Gustave Eiffel, c'est dans la région parisienne, et qui est responsable du master d'éthique médicale et hospitalière appliquée et membre du conseil scientifique du département de recherche du Collège des Bernardins. Donc il diffère deux sens de la dignité, le sens ontologique, c'est-à-dire le sens qui est au cœur de l'être de l'individu. L'homme vaut en lui-même et doit être respecté, quel que soit son état, son opinion, son sexe, sa condition, sa conduite même. Dès lors, il ne saurait y avoir d'homme indigne. La dignité ne peut pas se perdre comme on perd ses cheveux, ses dents ou sa virginité. L'autre sens de la dignité, c'est le sens postural. C'est sans doute ce à quoi se réfère le plus l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. C'est par exemple celui auquel on pense lorsqu'on jugera très digne la vieille dame corsetée, sévère et bien mise qui passe dans la rue. On dit qu'elle est digne. L'enterrement où tous sont restés dignes est celui où tous se sont tenus. Voilà, il s'agit d'un sens bourgeois, en somme, où il s'agit de se tenir. Il s'agit de retenir tout ce qui rappelle un peu trop l'animalité de l'homme. Les excrétions diverses, les larmes, les éructations, les excréments, mais aussi les affects. Je viens de terminer un livre sur ce qui s'appelle La Petite Bonne, qui est sorti l'année dernière et qui parle effectivement de tous les blessés de la guerre de 14 qui ne... Au regard de tout le monde, ils n'en sont plus dignes, ils ne sortent plus de chez eux parce qu'ils n'ont plus de jambes, plus de visage, plus de lèvres, etc. Et le regard de cette personne sur cette personne qui semble plus digne au regard de tout le monde puisqu'il ne peut plus faire quelque chose, il n'est plus jeune, il est défiguré. Le regard, elle porte un regard digne sur cette personne qui est au sens ontologique... Qui peut garder tout à fait qui a sa dignité intrinsèque. Voilà un petit peu les deux. Le tout, c'est de trouver cet équilibre entre la façon dont on est digne et la façon dont est le corps humain, surtout en fin de vie, qui n'a plus au sens utilitaire d'utilité, justement.
Alors, vous employez un mot très important, c'est celui du regard. Sabine Barbecombe, on voit bien que dans cette question de la dignité, le regard de l'autre sur ce que nous sommes, sur notre corps, sur tout notre être. Il compte, en fait. D'ailleurs, c'est ce que notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Micat, disait au micro de Radio Présence il y a quelques jours. La dignité humaine, alors, elle ne se résume pas au regard que l'autre porte sur moi, mais ce regard, il est quand même très important.
Oui, ce regard est important, en particulier pour les proches, pour la personne elle-même, mais aussi pour les proches qui l'accompagnent, pour sa famille. C'est vrai que je suis aussi aumônier d'hôpital, et dans ce cadre-là, on voit bien, on entend bien la souffrance de familles qui constatent que leur père, leur mère, leur proche est décharné, est émacié, est tout le temps en train de dormir, ne communique pas ou pas beaucoup, et du coup c'est ça qui est aussi perturbant pour la personne, pour les proches, c'est que l'image de cette personne qu'ils ont connue en bonne santé, pleine de vie, bien en chair, si je peux dire les choses, cette image n'est plus, mais en même temps la personne, comme l'a dit Bernard, la personne garde sa dignité parce qu'elle est. Parce qu'en tant qu'humain, c'est une personne digne. Et cette dignité est inaliénable.
Alors, on voit bien que dans les deux volets de ce projet de loi, hein, qui va être discuté au Sénat à partir d'aujourd'hui, il y a le volet des soins palliatifs. Il y a évidemment celui de l'aide active à mourir. Nous allons en parler dans quelques instants. C'est un sujet très important, mais on occulte peut-être un petit peu la question des soins palliatifs, et elle rejoint vraiment cette question de la dignité et du regard qu'on porte sur la personne malade, qui n'est plus tout à fait comme la personne qu'on avait connue, mais c'est toujours elle quand même. Peut-être que c'est quand même bien de rappeler ce que sont les soins palliatifs ou ce qu'ils devraient être, parce que c'est pareil, les soins palliatifs, ça fait quand même des années qu'on en parle. Il y a eu la loi Claeys-Leonetti, et puis finalement on a l'impression qu'on revient toujours à la case départ. Est-ce qu'on peut expliquer ce que sont les soins palliatifs en quelques mots, puis après on va essayer de comprendre pourquoi ça marche pas ou pas assez?
Alors en fait, déjà en 1999, la loi du 9 juin garantissait le droit à l'accès aux soins palliatifs en disant que les soins palliatifs, c'était soulager la douleur, apaiser la souffrance physique et sauvegarder la dignité des personnes.
Donc on en revient toujours à cette question de la dignité.
Et ouais. on se souvient tous de la fin de vie du président François Mitterrand et de Marie de Hennezel qui a écrit un livre dont je me souviens plus du titre, mais où elle explique bien d'ailleurs que c'est de par cette amitié qu'elle a pu entretenir avec le président François Mitterrand que le président l'a nommé psychologue dans une unité de soins palliatifs.
Ah, c'est pas que des soins comme on entend, faire des perfusions, laver, faire la toilette. Il y a vraiment toutes les dimensions de la personne qui doivent être accompagnées.
Et c'est ce que veut promouvoir la nouvelle loi de 2026. C'est garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Et donc, dans l'accompagnement, il n'y a pas que le côté thérapeutique médicamenteuse, mais aussi tout ce qui est accompagnement psychologique, spirituel, religieux, tout ce qui est technique de massage, de relaxation.
L'objectif, c'est vraiment de soulager la souffrance à tous les étages.
Exactement, tout à fait.
On sait que la personne souffre, on sait qu'elle est en fin de vie, mais on va faire en sorte que cette fin de vie soit la moins douloureuse possible.
Exactement. Et le but aussi de cette loi, c'est de faire en sorte que les soins palliatifs ne soient pas que proposés qu'en fin de vie, mais que il y a l'article 14 prévoit un plan personnalisé d'accompagnement qui s'appelle PPA, où dès qu'il y a un diagnostic de maladie incurable ou l'aggravation d'une pathologie grave ou une perte d'autonomie, de proposer cet accompagnement, de faire le point et de proposer un accompagnement par les soins palliatifs. Parce que on peut les soins palliatifs, c'est pas simplement quand tout est fini, quand il n'y a plus d'espoir, quand tous les traitements curatifs ne font plus effet. Oui, bien sûr, mais
c'est un petit peu ça quand même qui se passe aujourd'hui. C'est un globalement, petit peu le dernier
mais
recours.
L'idéal serait qu'il y ait une juxtaposition des deux, hein, à la fois des soins curatifs et des soins palliatifs. Et on voit même que certaines personnes qui sont en soins palliatifs guérissent, rentrent chez elles ou n'ont plus besoin de soins palliatifs.
Ah oui. Bernard Lefort.
Effectivement, dans mon existence, j'ai rencontré, dans l'évolution des soins palliatifs, j'ai rencontré effectivement cette évolution qui fait qu'au début, on juxtaposait, d'abord c'était les soins curatifs, point final. Une fois qu'on disait effectivement on ne peut plus rien faire, on avait les soins palliatifs. Et petit à petit, les soins curatifs et les soins palliatifs se sont juxtaposés. Au fur et à mesure que l'évolution avançait, il y avait de moins en moins de soins curatifs et de plus en plus de soins palliatifs. Et maintenant, troisième évolution, on se rend compte que, quel que soit le stade de la maladie, les soins palliatifs qui sont des soins de confort, qui sont des soins de bien-être, qui sont la prise en compte de toute la grandeur de la personne, peuvent rentrer à quel que soit le stade de la maladie. Et comme vient de le dire Sabine, il peut y avoir des gens qui guérissent, mais qui ont bénéficié de soins palliatifs. Au niveau du confort, vous avez parlé de la souffrance. La souffrance, c'est la douleur, bien sûr, mais c'est aussi la souffrance spirituelle, toutes les inconforts que l'on peut avoir dans un cadre de maladie.
Je voudrais savoir pourquoi on a l'impression quand même que, alors même si on entend bien avec ce que vous nous dites que la question des soins palliatifs a évolué depuis des années, il n'empêche que c'est pas la première fois, Sabine Barbecombe, que vous venez parler de cette question-là au micro de Radio Présence. La dernière fois que vous étiez venue, vous aviez appuyé sur le fait qu'il y avait 21 départements en France qui n'avaient pas d'unité de soins palliatifs. Là, on a une promesse du gouvernement qui nous promet qu'en 2026, eh bien absolument tous les départements auront des unités de soins palliatifs. Alors, pour rappel, il y en avait 168 seulement fin 2023. Donc, on voit que les choses bougent. Mais pourquoi c'est si difficile de mettre en place des unités de soins palliatifs? Pourquoi c'est pas déjà fait depuis longtemps?
Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'une raison importante, c'est le côté financier, déjà, pour former le personnel, pour monter ces unités. On sait bien que la question financière dans les hôpitaux est très importante, hein, et sous la responsabilité des ARS. Donc, toutes les unités, toutes les équipes mobiles de soins palliatifs doivent justifier d'une activité.
Alors, pardon, mais je vous coupe juste, il y a des unités mobiles et puis des unités tout court.
Il y a des unités de soins palliatifs. Et puis, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs avec ce que l'on appelle des lits étiquetés soins palliatifs. C'est-à-dire que ces équipes, comme le nom l'indique, peuvent aller ou dans différents services d'un hôpital ou dans différentes structures. Moi qui travaille sur l'hôpital de Tarbes, Lourdes-Léguerotte-Vic, l'équipe mobile qui est basée à Lourdes intervient à Léguerotte, intervient à Vic. Voilà.
Dans les Hautes-Pyrénées, il y a plusieurs équipes mobiles de soins palliatifs. Et puis depuis peu, il y a une unité de soins palliatifs.
À l'Arbison,
voilà. Donc, on voit que les choses quand même évoluent. Mais ça reste quand même un challenge. Donc, voilà. On y revient à ce... C'est une question financière.
Oui, essentiel. Je pense, je ne fais pas partie des équipes de soins palliatifs, mais je pense que c'est quand même le bas mot. C'est le côté financier, c'est la formation du personnel et c'est aussi la sensibilisation des soignants, de tous les soignants.
C'est pas parce qu'on est soignant qu'on peut être engagé dans une équipe de soins palliatifs.
Alors, il faut être formé.
Il faut avoir une formation spécifique.
Voilà.
C'est la formation que vous avez.
Avec toutes les subtilités de dans tel cas, on utilise tel produit, mais là, il vaut mieux en utiliser un autre. Voilà. Et on sait très bien qu'en fonction des équipes dans les hôpitaux, les équipes mobiles, par exemple, sont plus appelées ou pas. Il y a des services où les équipes mobiles de soins palliatifs ne sont pratiquement pas appelées.
Pourquoi ?
Parce que les soignants, tous, que ce soit le médecin, les infirmiers, ne sont pas trop sensibilisés ou pensent pouvoir soulager et apporter une aide.
Puis on est dans l'urgence du soin aussi parfois.
Oui. Bien sûr, mais dans l'urgence, on peut faire et puis appeler quand même une équipe en renfort pour avoir des conseils.
Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas encore suffisamment le réflexe de compter sur les soins palliatifs.
Dans certains cas, oui.
Bernard Lefort, vous partagez ce... Vous vous êtes formé il y a longtemps.
Alors, en 1990, j'étais sans doute un des premiers sur Bordeaux. C'était la première fois qu'il y avait un diplôme universitaire de soins palliatifs. Maintenant, c'est un diplôme interuniversitaire qui est sur 2 ans. Et je vous rappelle que la loi Kouchner, qui date d'il y a 27 ans, 1999, institue l'accès universel aux soins palliatifs. 27 ans après, où est-ce qu'on en est? Donc 50% des personnes qui devraient relever de soins palliatifs n'y ont pas accès, et il y a donc 19 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs.
Et je rajouterais, et au niveau de la pédiatrie, c'est encore pire.
Voilà.
Puisque un tiers, je crois que c'est un tiers des enfants qui devraient en bénéficier, en bénéficient.
Je vais essayer de compléter un petit peu ce que vous disiez, où je suis tout à fait d'accord. Il y a peut-être aussi, d'abord, peut-être un manque d'intérêt des soignants pour cette fin de vie. Ce n'est pas quelque chose de très gratifiant, c'est quelque chose qui est difficile. À un moment, dans un congrès de soins palliatifs, j'avais posé la question quelle est la durée de vie d'un soignant dans une unité de soins palliatifs? Non pas en tant que malade en fin de vie, mais en tant que... C'est quelque chose... Quand on s'approche de quelqu'un qui brûle, on peut se brûler aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'évident d'accompagner une personne dans sa fin de vie ou dans sa maladie grave. Et il y a peut-être des moyens de défense qui font que, bon, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça y est, j'ai assez donné, je vais faire maintenant autre chose.
Pourtant, la vocation des soins palliatifs, c'est de faire en sorte que la vie soit la plus... belle possible jusqu'au bout, malgré la souffrance médicale, psychologique, spirituelle. Mais enfin, c'est quand même la vie jusqu'au bout, quoi.
Oui, mais quand on est au contact quotidiennement, toute la journée, de personnes qui sont en souffrance, et souffrance importante, alors non seulement la personne, j'aimais bien la phrase de Jean Leonetti quand il a institué sa loi, qui pose trois... Le texte de la loi Leonetti, donc qui date de 2005, repose sur un triple engagement. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne prolongerai pas ta vie de manière abusive. Et dans cette proposition de loi, il y a aussi trois personnes. Il y a la personne qui est dans le lit, il y a l'entourage et il y a le soignant. Et c'est le regard, les regards partagés de ces trois personnes qui font que quelquefois c'est très difficile, effectivement, parce que les proches peuvent être très demandeurs de quelque chose que ne veut pas le soignant. Il y a la souffrance du proche, ce que je veux dire aussi. Il y a la souffrance du malade, et puis le soignant a aussi sa vie personnelle. Quand il rentre dans l'hôpital, il faut qu'il décharge aussi tous ses soucis personnels, et quelquefois c'est difficile de manager tout ça.
Voilà, alors il va falloir qu'on marque une petite pause avant de poursuivre cet échange sur ce projet de loi de la fin de vie qui est en discussion à partir d'aujourd'hui au Sénat. En tous les cas, ce qu'on comprend bien pour finir sur cette partie soins palliatifs, c'est que il y a eu des avancées, mais il y a encore du chemin à faire et que finalement, peut-être l'essentiel de ce projet de loi, ce serait de mettre le paquet pour renforcer ces soins palliatifs et pour encourager plus de soignants à s'y former. On entend bien la question financière, mais on ne peut pas résumer les soins palliatifs ou arrêter les soins palliatifs pour une question de sous, quand même. Bernard Lefort.
Alors là, au point de vue sous, ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je crois plus à la difficulté personnelle qu'aux difficultés financières. Les difficultés financières, bon, on voit le budget actuellement qui est très difficile à trouver. Je dirais ça, en tant que soignant, ce n'est pas mon problème. Je vois la souffrance de tout le monde, aussi bien des proches, des soignants et du malade. Voilà,
en tous les cas, on entend aussi, vous le disiez, Sabine Barbecombe, qu'on pense souvent que les soins palliatifs ne concernent que les personnes âgées ou qui ont des maladies incurables depuis très longtemps, mais vous avez parlé des enfants rapidement tout à l'heure, et donc c'est important aussi de dire qu'il arrive que des enfants soient en soins palliatifs quand même.
Malheureusement, oui. Et quand un enfant est en fin de vie, comme un adulte, il faut souhaiter pour lui qu'il souffre le moins possible et qu'il soit accompagné par une équipe de soins palliatifs.
Évidemment. On marque une pause et on vous retrouve dans un instant. Nous sommes toujours en compagnie de Sabine Barbecombe et Bernard Lefort. Je rappelle, Sabine Barbecombe, que vous êtes la responsable, la coordinatrice de la pastorale de la santé dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Vous intervenez aussi en tant qu'aumônier à l'hôpital de Tarbes. Et vous avez lancé la fraternité Saint-Luc dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, une fraternité donc qui permet à des soignants de se retrouver pour échanger. Et puis en face de vous, Bernard Lefort, vous êtes médecin libéral retraité depuis 8 ans. Vous vous êtes formé aux soins palliatifs il y a très longtemps. Et vous nous avez expliqué en première partie votre regard sur les soins palliatifs qui sont un des deux volets de ce projet de loi donc, de la fin de vie qui est en débat au Sénat à partir de ce 20 janvier. L'autre volet, c'est celui de l'aide active à mourir. Alors là, c'est sur ce volet-là que s'agitent un petit peu les passions, les tensions, puisque l'aide active à mourir, évidemment, ne fait pas l'unanimité. Mais pourtant, d'un côté comme d'un autre, qu'on soit pour ou contre, eh bien, on se dit et on dit qu'on est pour la dignité humaine et que c'est au nom de cette dignité humaine qu'on prend position pour ou contre l'aide active à mourir. L'aide active à mourir, au fond, qu'est-ce que c'est, Sabine Barbecombe? Ça veut dire quoi? Il y a quoi derrière l'aide active à mourir? C'est quel geste? Pour qui et par qui?
Alors, quand on parle de l'euthanasie, c'est une personne, un soignant, en l'occurrence médecin ou infirmier, qui administre une substance létale, c'est-à-dire mortelle, pouvant entraîner la mort à un malade qui n'est pas en capacité de le faire. Et la deuxième possibilité, c'est le suicide assisté, donc l'aide au suicide, où à ce moment-là, une substance létale est préparée dans une pharmacie et un soignant la remet au malade, qui lui, à ce moment-là, est en capacité de le prendre, et c'est le malade qui s'administre cette substance.
Donc l'aide active à mourir, c'est l'une ou l'autre de ces possibilités.
Voilà, donc à savoir ce qui va être décidé, comment cela se passera, mais ça peut être...
En tous les cas, dans le projet de loi, c'est ça qui est proposé.
Alors, c'est plutôt l'aide au suicide, et quand le malade ne pourra pas s'administrer lui-même le produit, par exemple dans une maladie neurodégénérative comme une maladie de Charcot où la personne n'est plus en capacité d'utiliser ses bras, c'est le soignant qui administrerait la substance létale.
Bernard Lefort, vous en pensez quoi? Pour demander des choses très, très concrètes, vous êtes médecin, qu'est-ce que c'est pour vous l'aide active à mourir?
Pour moi, l'aide active à mourir, c'est faire... moi, j'emploierais le mot d'euthanasie, c'est-à-dire que c'est soit aider quelqu'un à mourir en l'aidant à se injecter un produit, soit effectivement avoir un geste d'euthanasie. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat.
Ce n'est pas un soin. Je vous pose cette question-là parce que, évidemment, c'est un sujet là dont on entend parler sur tous les médias. Il se trouve que on entend aussi des soignants dire, moi, j'y suis favorable parce que je vois cette aide active à mourir comme un soin qu'on apporterait pour soulager la souffrance du patient. Vous nous dites, vous, Bernard Lefort, non, ce n'est pas un soin.
Non, ce n'est pas un soin. Et en tant que médecin, je vous rappelle que j'ai prêté un serment lorsque j'ai passé ma thèse et que je suis devenu docteur. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. J'ai prêté ce serment il y a une quarantaine d'années. Je ne peux pas me parjurer. Et je pense que pour tous les médecins, c'est la même chose.
Oui, enfin, cela dit, il y a des médecins qui y sont favorables.
Oui, voilà.
Alors, je pense qu'il y a des médecins qui considèrent que, à partir du moment où ils ont accompagné quelqu'un en tant que patient un certain nombre d'années, il faut l'accompagner jusqu'au bout, et donc l'accompagner jusqu'à la mort si le patient demande l'euthanasie.
Il y a quelques années, avait eu lieu à Tarbes une table ronde avec notamment des soignants de l'unité mobile, de l'équipe mobile de soins palliatifs. Certains d'entre eux disaient, on comprend cette idée de l'aide active à mourir, mais nous, on est témoins que quand, avec les soins palliatifs, on est capable vraiment de soulager la douleur, qu'elle soit physique, psychologique, spirituelle, ou les trois d'un coup de la personne malade, cette demande d'aide active à mourir, elle diminue, voire elle est oubliée complètement.
C'est une réflexion régulière de la part des médecins qui travaillent dans les unités de soins palliatifs. Cette demande arrive régulièrement et il faut l'entendre, il faut la travailler, il faut effectivement réfléchir en collégialité dans le service. Et quand on a compris un petit peu peut-être le soubassement de cette demande, qu'est-ce qu'il pourquoi cette personne demande à mourir, on peut travailler dessus. Et effectivement, quand les équipes arrivent à travailler sur cette demande, la plupart du temps, s'évacue. Et la persistance de cette demande est de la part des médecins de soins palliatifs très 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 rare. C'est-à-dire que on ne va pas faire une loi sur quelque chose qui est, dans la mesure où la prise en charge en soins palliatifs est bien faite, cette demande la plupart du temps n'existe plus.
Dans ce projet de loi d'aide active à mourir, la mise en place quand même de cette aide active à mourir, pardon, elle requiert plusieurs conditions. Je crois qu'il est question de 5 conditions en particulier pour qu'on soit bien, bien précis et bien clair et pour qu'on donne aux auditeurs aussi tous les éléments pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer. C'est quoi ces conditions ? Parce que il faut quand même être clair. Cette loi, elle n'est pas comme ça pour tous, tout le temps. Enfin, qui veut, il y a quand même un cadre qui est proposé.
Alors, il faut être majeur. C'est-à-dire que les mineurs qui sont anticipés, qui sont émancipés par leurs parents n'y ont pas droit. Voilà. Il faut être de nationalité française ou résider en France de façon stable et permanente. Il faut être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou en phase terminale. Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection et qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne. Et aussi quand le malade a pris la décision d'arrêter tout traitement. Et donc on sait qu'à ce moment-là, si le malade, ce qui est son droit, demande à arrêter tout traitement, on sait que si l'arrêt des traitements provoque une souffrance
atroce.
Là, ça peut faire partie des critères pour pouvoir bénéficier de l'euthanasie. Et il faut aussi être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Donc là, c'est pas possible que quelqu'un de l'entourage dise « Mais moi, je suis son épouse, je suis son frère, je suis sa mère, je le connais très bien et je sais que là, il veut partir, donc on le laisse partir. »
Non, mais
on provoque son départ.
On peut penser, et c'est le risque, que certaines personnes, même si elles sont en toute capacité de prendre des décisions, on peut penser à une personne âgée par exemple, soient fortement incitées par sa famille à demander une euthanasie. Parce que, oui, tu comprends, papa, ta vie est inutile, tu fais plus rien.
Enfin, dans le cadre que vous... dans les conditions que vous énumérez...
Mais dans les conditions, c'est la personne qui prend la décision.
Et donc, dans les conditions...
Même, on se pose le cas de la personne souffrant de déficience intellectuelle.
Oui.
Hein, et même dans ce cas-là, même une personne souffrant de déficience intellectuelle est éligible à l'euthanasie.
Encore faut-il pouvoir l'exprimer.
Encore faut-il pouvoir l'exprimer.
Est-ce que ce cadre-là, Bernard Lefort, il vous rassure ? Est-ce qu'il est suffisant pour que, et du côté soigné et du côté soignant, ce soit rassurant et qu'on se dise, bah, en fait, c'est bien cadré, donc il n'y a pas trop de risques ?
Oui, deux réponses. La première qui me vient à l'idée, c'est que dans tous les pays où il y a eu un cadre assez restrictif, pour ces demandes d'euthanasie, on a vu qu'au fur et à mesure que les années passaient, ce cadre a éclaté et l'euthanasie devient de plus en plus, entre guillemets, facile. La deuxième réponse, c'est que nous avons déjà, depuis 2016, tout l'appareil législatif qui peut répondre à ces demandes, notamment la loi Claeys-Leonetti, met en travail le fait de pouvoir administrer une substance qui permet, lorsqu'il y a des souffrances intolérables ou des phénomènes médicaux intolérables comme des étouffements, comme des hémorragies cataclysmiques, comme des douleurs improbables qu'on n'arrive pas à traiter, une sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Donc ça, c'est déjà prévu dans la loi
Claeys-Leonetti. Ça, c'est déjà prévu dans la loi il y a 10 ans, hein, 2016. La loi Claeys-Leonetti. Et donc, ce qui est important de se rendre compte, c'est que dans le cadre de cette loi, c'est l'intention qui compte. L'intention n'est pas de donner la mort, mais on provoque une sédation profonde et continue avec, premièrement, un produit qui est un anesthésique et qui permet de ne plus se souvenir de ce qui se passe, et deuxièmement, de la morphine qui permet de passer un cap douloureux de façon importante. Voilà. Et si le décès peut survenir, non pas du fait de ces traitements, qui ne sont pas des traitements pour faire mourir, mais le décès survient de façon naturelle alors que l'on donne ce traitement. Voilà. Et ça, c'est un problème d'intentionnalité. L'intention n'est pas de donner la mort.
Donc finalement, le point de changement, il est vraiment sur ce point d'attention entre la loi Clézy-Lunetti et le projet de loi qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Alors malheureusement, on arrive déjà au terme de cet échange. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Et peut-être que pour terminer, justement, vous pouvez nous donner conseils aux auditeurs pour savoir où et comment bien s'informer. Parce que là, on comprend que la loi Clézy-Lunetti, en fait, elle a 10 ans. Et que soit elle n'est pas connue ou mal connue ou pas appliquée ou mal appliquée. Enfin, on a du mal à comprendre pourquoi une loi qui permettrait de prendre bien soin des personnes qui souffrent n'est pas mieux connue et mieux appliquée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en savoir plus? D'abord, est-ce qu'il est encore temps là, de bouger sur cette question-là?
Pas connue et pas appliquée, y compris parmi les soignants. Ça, c'est quelque chose d'important.
C'est pas rassurant ce que vous nous dites, Bernard Lefort.
Mais quand on les interroge, etc. Voilà, il faut vraiment s'y intéresser. Ma source principale d'information, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui s'appelle la SFAP.
Vous avez été actif dans cette association?
Non, moi, j'étais pas dans cette association, j'étais dans une autre association, mais c'est vraiment la référence, hein, où il y a tout, justement, la discussion au niveau de ces lois, au niveau de toutes les formations, au niveau de soins palliatifs, etc. C'est une mine, effectivement, voilà. Cette référence.
Après, il faut s'informer parce que on est tous concernés, d'abord parce qu'on sera tous un jour confrontés à notre propre fin de vie et qu'évidemment nos proches également. Donc il y a aussi la question des directives anticipées. Enfin, on a vraiment, vraiment intérêt à s'informer sur cette fin de vie et sur le cadre législatif.
Alors sur le diocèse, il faut préciser qu'il existe SP2, la Société Pyrénéenne des Soins Palliatifs, qui forme tout un chacun, les soignants comme les bénévoles, tout comme vous, moi, à être attente, à vraiment savoir ce que sont les soins palliatifs pour être éventuellement bénévole. Donc déjà, ça existe.
Ça veut dire aller rendre visite aux personnes malades
après,
dans les soins palliatifs?
Une fois qu'on est formé, on peut aller rendre visite aux malades en tant que bénévole. Et puis, deuxième chose, à la demande de Monseigneur Mika, je suis en train de préparer une matinée d'information pour tous les chrétiens du diocèse. Donc je ne peux pas encore vous donner date parce que c'est en cours d'élaboration. Ça sera vraisemblablement un samedi matin avant la fin du carême, pour justement informer tout le monde sur la loi, sur ce qui existe, et pour que chacune puisse discerner en son âme et conscience.
Voilà, et on termine, Sabine Barbecombe, avec une information, puisque je l'ai dit au début de cette émission, vous êtes responsable de la pastorale de la santé dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, et vous voulez nous parler, pour terminer, d'un rendez-vous à la journée pour les personnes handicapées.
Voilà, depuis 1992 est proposée la Journée internationale du handicap avec différents partenaires, et en particulier des partenaires religieux et chrétiens. Cette année, alors normalement cette journée a lieu le 3 décembre. Pour des raisons pratiques, sur notre diocèse, nous n'avons pas pu l'organiser au mois de décembre. Cette année, vu le thème de l'année jubilaire, le thème est « Chante avec moi l'espérance partagée ». Et cette année, cette journée aura lieu le dimanche 1er février 2026 à la maison diocésaine Saint-Paul de 10h30 à 17h avec des ateliers, un repas tiré du sac, la messe, bien sûr. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Sabine Barbecombe, pour ce rendez-vous Journée internationale du handicap célébré, fêté dans le diocèse de Tarbes et Lourdes le dimanche 1er février prochain. Merci à tous les deux d'être venus nous donner votre éclairage sur cette question de la fin de vie. Je rappelle que la question de la fin de vie est vraiment au cœur des débats parlementaires, puisqu'elle est examinée par le Sénat à partir de ce 20 janvier jusqu'au 26 janvier. Il faut s'informer sur le sujet. Merci beaucoup à tous les deux, Bernard Lefort, Sabine Barbecombe.
Merci Anne-Rose.
Merci.